Matildi, Matildi, je suis María José Muñoz, je viens de l'Université Complutense de Madrid et je suis là, professeur ordinaire de philologie latine. J'ai commencé en étudiant pour ma thèse de doctorat les manuscrits de Sepigrammata de Martial à la bibliothèque espagnole. Et après, depuis l'an 2000, je suis en travaillant au Flodilès de cette bibliothèque espagnole. J'ai dirigé 5 projets sur ce sujet et nous avons trouvé déjà 150 Flodilès latins aux manuscrits de l'Espagne. Bon. Je voudrais, avant tout, remercier le professeur Chris Neumann pour son invitation à participer aux écologues, si intéressant et si nécessaire aussi. Et je voudrais aussi le remercier publiquement par ses générosités en mettant à notre disposition en ligne l'édition de Manipulus Prof. Thank you very much. En outre, je suis très honorée de pouvoir présenter aujourd'hui ici les manuscrits de Manipulus préservés dans les bibliothèques espagnoles, un sujet qui n'a pas reçu jusqu'au présent beaucoup d'attention des spécialistes et duquel j'ai retraité d'un point de vue, je crois, un peu différent, parce que je ne parlerai pas des idées, des concepts, du contenu du texte de Manipulus, mais de la collatio externa des manuscrits. En Espagne, on conserve actuellement 6 manuscrits de Manipulus, parmi lesquels Richard et Mary Rose en connaissaient 12. Les 4 nouveaux manuscrits signalés en rouge sur l'image ont été trouvés et catalogués par une équipe de recherche de l'Université Complutense de Madrid dédiée à l'étude de la littérature latine d'Estrée, des Florilés et des anthologies du Moyen Âge et de la Renaissance. Il est évident que, dès que le Manipulus Florum a été définitivement établi par Chris, l'importance de cette monnaie manuscrite ne réside pas, au moins elle ne réside pas seulement, dans les textes qu'il transmet. Mais malgré tout, les types particuliers de chaque copie, du point de vue de sa provenance, de ses possesseurs et du type de transmission dans lequel il se trouve, peut donner des résultats intéressants pour connaître l'influence et l'utilisation des Manipulus Florum et en concret dans ce cas, pour connaître mieux sa diffusion en Espagne. Un sujet très peu étudié, comme je vais te dire, puisque, par exemple, les Rose ont seulement commenté quelques aspects du manuscrit Q311 de la bibliothèque du monastère de San Lorenzo de l'Escorial. Ce manuscrit est précisément un des 4 représentants de la première édition de Paris, la famille auquel les Rose ont donné le sigle Gamma. Il était Gamma. Ce groupe se caractérise d'abord par une rubrique commune présente dans chacun d'eux. Incipit tabula librorum originarium, stilitit Augustini, Ambrosi, et cites Arlis, qui sunt in numero 36 autores, secundum ordinem alfabeti, qui vocatur Manipulus Florum, edita a magistro Toma de Ibernia, Condam Socio de Sarbona. Et aussi, se caractérise parce qu'il ajoute à la fin du prologue le passage suivant. Nomen autem collectoris volui suiticere ne collectio vilescret cognito collectore. En outre, un renseignement particulier du manuscrit Q311, ce qu'il contient à la suite du Manipulus des autoritates Porfiri. Ces autoritates ont été ajoutées par une autre main qui s'est servie de le défait final de 128 à 30 en blanc. Ses renseignements illustrent, je crois, des contextes académiques et universitaires dans lesquels ce manuscrit a été utilisé. Mais ce codex est passé de ses premiers états de diffusion à un millier nobiliaire et privé, car le manuscrit a appartenu à la bibliothèque particulière du comte-duc d'Olivares, favori du roi Philippe le Quatrième et premier ministre. Gaspard de Gournay, qu'on s'appelait le duc, a été un politicien autoritaire et ambitieux, mais aussi le mécène d'écrivains et d'artistes comme Diego Velázquez, qui l'a immortalisé dans de divers portraits. Sa bibliothèque avait plus de 1000 volumes et la présence du Manipulus Romum dans une bibliothèque laïque et privée atteste que cette œuvre a été utilisée pour une lecture privée, bien qu'à l'origine, le manuscrit ait été créé pour la première édition universitaire de nature publique. Son dernier destin a été néanmoins le monastère de l'Escorial, auquel il est arrivé en 1656 par donation du roi Philippe le Quatrième. Curieusement, on pourrait dire que cette dernière présence du manuscrit dans un milieu monastique est secondaire et constitue le résultat de circonstances externes parce qu'il est arrivé dans les lairs de la bibliothèque du comte-duc et pas à cause de son intérêt particulier concernant le contenu concret du codex. Le second manuscrit de la bibliothèque du monastère de l'Escurial qui contient le Manipulus Lorum et le codex F2-18. Ce manuscrit date aussi du XIVe siècle et il provient des Pays-Bas et a été acheté là-bas par l'humaniste espagnol Arias Montano pour la bibliothèque de l'Escurial. Benito Arias Montano fut l'éditeur de la Biblia Polyglota à Anvers, chapelain royal et responsable de la bibliothèque du monastère. Circonstance qui nous permet de supposer que l'acquisition de ce manuscrit a été réalisée par lui de manière consciente et que ce codex n'est pas arrivé au monastère par hasard, comme le Q3-11, mais à cause d'un intérêt particulier. Le manuscrit offre un contenu varié. La légende de Douai de Jacobus de Voragine, un best-seller médiéval, ouvre le manuscrit et d'une certaine manière aussi le ferme, parce que dans la dernière feuille s'offre la liste des saints par ordre alphabétique. Cette œuvre est accompagnée par trois vers traités, de Viduarum Consolatione de Saint Bonaventura, de Articulis Fidei de Saint Thomas d'Aquin et de Tribus Pontis Christiane Religionis de Thomas d'Arland. Ensuite, on trouve le Manipulus Lorum, mais seulement sur 17 feuilles, et pratiquement comme un ajout, parce qu'il n'a pas, comme on peut le voir, un incipit avec un espace propre dans la mise en place. Et le titre a été inclus en profitant du creux de la dernière ligne de le Tribus Pontis Christiane Religionis. Dans les feuilles 199 à 206, et le test a été évidemment très résumé. Un renseignement significatif montre qu'on trouve un désabrégé précoce de Manipulus inséré dans un contexte plus vaste et qui accompagne des œuvres comme la légende de Roy ou le Viduarum Consolatio, destinées à l'instruction des fidèles et à la perfection spirituelle. Il ne semble pas fortuit qu'il concorde avec l'intention de Thomas d'Hibernia, quand il a écrit le Manipulus, voulant être utile pour la formation personnelle des étudiants universitaires, comme le professeur Neumann l'a démontré dans son article concernant le topic prédication. Les manuscrits de l'Escorial sont arrivés d'autres pays au monastère royal, comme la plupart des manuscrits des bibliothèques espagnoles. Mais il y a au moins un codex d'origine hispanique. C'est le manuscrit 17 de la Bibliothèque publique de Tarragona qui a été copié au XVe siècle dans le monastère cistercien de Sant Creus, à Santa Croix, 64, qui avait été fondée dans l'an 1558 et vécu sa splendeur maximale au cours des 15e et 16e siècles. Il était, avec le monastère de Santa Maria de Ripoll, l'un des scriptoria plus importants de Catalogne. L'importance accordée au manipulus se reflète, je pense, dans la richesse de la décoration et les soins de la mise en page du manuscrit. Ce codex, créé dans un milieu monastique, est conservé dans une bibliothèque civile, car après les confiscations des biens de l'Église faites en Espagne dans le 9e siècle, le manuscrit est allé à la bibliothèque provinciale de Tarragone et ainsi sa histoire est exactement la contraire à celle des manuscrits de l'Escurial, dont la dernière destination au monastère était secondaire. D'autre part, cette copie est un témoignage de la deuxième édition universitaire de Paris, qui est la famille avec le prix de manuscrits. En particulier, des faits confirment cette inscription. Ils omettent la liste des auteurs et des œuvres, et il offre la variante quorum dans le texte de la préface, ce n'est qu'à quorum dicta, alors que les autres branches de la tradition manuscrite ont le texte, ce n'est qu'à cuius dicta. La plupart des manuscrits des bibliothèques espagnoles appartiennent à la tradition complexe de cette deuxième famille, comme les conservés dans les archives capitulaires de Córdoba, Tarragona, Tortosa, avec des exemplaires, Valencia et Vic. Tous ces témoins sont insérés dans un environnement religieux qui nous invite à penser à un contexte pastoral et à une utilisation pour la prédication. Puisque c'est le type le plus commun, pour des raisons de temps, je ne parlerai pas de maintenant et je le ferai dans la publication. Je crois que le plus intéressant présentait brièvement trois exemples de la diffusion différente d'une manipulus en Espagne. Un manuscrit de l'environnement de l'université, un autre d'une bibliothèque privée et à la fin, un codex du 17e siècle, épilogue tardif de la transmission manuscrit. Le premier exemple est le manuscrit. Ah, pardon, je n'avais. Bon, ce sont les codices de la de cathédralicios, de cathédrale. Et ça, c'est le manuscrit. Ah, on ne voit pas les titres. Non. Bon. Bon, on ne voit pas. Je ne sais pas comment le faire. Le premier exemple est le manuscrit de 1102 conservé à l'Université de Salamanque et clairement inscrit dans un contexte universitaire. C'est une copie aussi de la deuxième édition de l'Université de Paris, avec la particularité que l'incipit ne propose pas la variante socio, qui est la plus commune, mais scolari, qui est également présenté, par exemple, dans le manuscrit 389 de la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, décrit par les Roses. Incipit, incipit manipulus sib extractiones originarium a magistro Toma de Hibernia, quondam scolari Sorbona. Ce manuscrit a pu être amené de Paris vers Salamanque grâce à un étudiant espagnol, parce que dans la bibliothèque de l'université, il y a plusieurs manuscrits d'origine française, comme le Codex de 1080, qui contient une copie des Autoritates Aristoteles et qui appartenait à un étudiant à la Sorbonne et après professeur à Salamanca, Joanes García Cordubensis. Un témoignage ayant une histoire différente est le Codex de 56-13 de la Bibliothèque Colombina de Sevilla, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il appartient à une bibliothèque privée, car la Bibliothèque Colombina fut fondée par Hernando Colón, le fils de Cristóbal Colón, à Séville au VIe siècle. La collection originale comprenait 15 000 volumes, même si aujourd'hui le fonds a été réduit à 3 200. Mais l'utilisation privée est secondaire. parce qu'en effet, les codes appartiennent à la famille bêta, dont la principale caractéristique, c'est le colophon. Explicit manipulus florum, qui fecit scribit frater Angelus de Agobio, ordinis fratum minorum, compositus a magistro Toma de Ibernia, et incipit instantabulam frater Johannes Galensis de ordine minorum fratrum, doctor in sacra theologia, sed magister Thomas abreviabit et finibit. À propos de la relation entre Thomas d'Ibernia et Johannes Galensis, nous a parlé hier Chris, mais il y a aussi dans ces colophons d'autres informations intéressantes. Que le manuscrit a été fait probablement dans le monastère italien de Gubbio et pourtant que le milieu monastique est l'originel. Je voudrais finir cette vue de l'ensemble sur les manuscrits de Manipulus Florum dans les bibliothèques espagnoles en faisant une attention spatiale au manuscrit de 146 de la Bibliothèque historique de Santa Cruz de Valladolid, un code très tardif du XVIIe siècle qui a été composé par Cristóbal García. Ce compilateur a été étudiant du Collège de Santa Cruz à Valladolid et après chanoine à la siège épiscopale de Ciudad Rodrigo et professeur à l'Université de Valladolid, une des trois universités plus anciennes de l'Espagne avec celle de Salamanca et d'Alcalá de Henares. Cristóbal García avait compilé une série de 16 œuvres conservées à la Bibliothèque du Collège de Santa Cruz. Les manuscrits contient un florilège avec le titre C'est mon mari. C'est merveilleux. Il me manque. Le manuscrit contient un florilège avec le titre Liber Undecimus de varis doctorum sententis per materias ordine alfabetico distintus tot continens capita quod son literae alphabeti quibus materiae designantur, e il ajut dans le magin per títulos et números de visa. Le commencement du titre, Liber Undecimus, fait allusion à la série de 16 œuvres composées par Cristóbal García, et le même titre indique que c'est un florilège de varis doctorum sententis, thématique per materias organisée alphabétiquement, ordine alphabetico distintus, un chapitre et avec des titres en numération propre, per títulos et números de visa. Cristóbal García inclut dans son florilège tous les lemmes du Manipulus Florum, comme on peut voir dans l'Andes, comparé dans l'image avec celle du manuscrit de Tarragona. Mais il a une exception, car il inclut aussi les lemmes crédulitas. Cependant, le compilateur de Valladolid ne mentionne pas la source qu'il utilise et il omet le prologue de Thomas d'Ibernia. De plus, dans son méthode de composition, Cristóbal García réduit le nombre des extraits de chaque chapitre original, mais en même temps, il introduit une nouveauté dans la sélection puisqu'il complète chaque lemme avec l'addition de 432 nouvelles citations prises des poètes latins de l'Antiquité. Ausonius, Boetius, Catulus, Claudianus, Consolato, Alipian, etc. Disco Vergilius. Le manuscrit a un aspect très peu soigné parce qu'il montre qu'il a été réalisé pour une utilisation privée et par un personnage particulier et pas par un copiste professionnel. Dans l'image de la feuille 19 versus et pan rectus, on peut observer la confusion et le dérèglement de la copie dans les lemmes Amor et Angelus et les retirs et corrections réalisées à la fin d'Amor, auquel suit Contitulus 3, Angelus, qui est retiré et copié de nouveau dans les feuilles 20 versus 20 ans. Il est bien copié. En même temps, je crois que le lemme Amor est un bon exemple aussi de méthode de composition. Comme j'ai dit à propos Oh, pardon, je ne parlais pas de d'un manuscrit de l'Escorial, l'F318. Si, mais nous n'avons pas vu les extraits de Amor et Angelus, non? Amor, dans les Manipulations, a 57 extraits, desquels Cristóbal García offre 25. Et après, il ajoute 15 citations différentes des poètes classiques, à partir de l'extrait 26, qui est en russe. À partir avec un passage de Remédios d'Ovide. Depuis, nous pouvons vérifier que Cristóbal García, initialement, a fini les chapitres avec les références croisées de l'original. Vide etiam intitula Mysticia beneficentia correctio electio deositas opus timus. Mais, apparemment, il a dû se repentir de sa décision et il a retiré ses références et les extraits déjà écrits d'Angelus pour ajouter les nouvelles citations des poètes comme Ovide, Virgile et Properce. Alors, c'est un document, un procès de création qu'on peut considérer un cahier d'usage personnel. Une autre particularité du manuscrit de Valladolid est le type de source utilisée, car Cristóbal García s'est servi de deux éditions imprimées, en versant ainsi le processus conventionnel de transmission de textes, puisque ce n'est pas un texte manuscrit qui s'imprime, mais un texte imprimé qui est copié de nouveau à la main. Je présenterai très brièvement pour finir les deux éditions utilisées. Les Rose ont consacré un chapitre à les éditions du Manipulus et ils soulignent que l'édition de Venise de 1555, celle qu'hier nous a montré Christ, offrait un nouveau titre, Flores omnium ferre doctorum qui super sacris litteris concriterum nennum et corunda mariorum, qui a été accepté et a été accepté par une branche de la tradition textile imprimée avec des variantes comme Flores omnium pene doctorum, qui cum in theologia tu in philosophia tenus claruerum, sedulo collecti per domam hibernicum et alphabetico ordine digesti, anti tre pros a celui di manuscrit de Valladolid de varis doctorum sententis per materias ordine alphabetico distintos. De plus, l'édition de Venise présente aussi le lemme Christianus et Christus dans la lettre C et pas à la fin dans la lettre X et dans les manuscrits de 145, quand si ce lemme Christianus et Christus sont également entre castitas et clericos. D'autre côté, les Rose signalent que dans les éditions publiées en Anvers en 1558, par Johannes Belerus, on a identifié pour la première fois les extraits de chaque lemme avec des nombres, comme il arrive dans les manuscrits de Valladolid, et pas avec des lettres, système utilisé jusqu'à ce moment. Ce changement a été accepté seulement par les éditions postérieures d'Anvers et par les Français postérieures en 1664, ce qui nous permet de déduire que Cristóbal García a utilisé une des trois éditions publiées à Anvers, parce que les Français, avec identification numérique, sont postérieurs. Pour les citations des poètes ajoutées à la fin des différentes lemmes, Cristóbal García a utilisé l'anthologie de la Renaissance intitulée Illustrium Poetarum Flores, publiée à Strasbourg en 1508. D'Ottaviano Fioravante, qui connaît comme Ottaviano Mirandola. Mirandola organise l'anthologie par concept en suivant la méthode de Thomas d'Irlande dans le Manipulus Florum et à la manière d'autres anthologies de la Renaissance, comme les diverses polianthées, la première de Nanni Mirabellius et après celle de Joseph Langius, qui ajoutait nouveaux titres sur le modèle du Manipulus Florum. Précisément, l'inclusion dans les manuscrits 246 du titre Credulitas, qui n'existe pas dans les Manipulus Florum, c'est un élément très significatif pour établir que la source utilisée par García, par Cristóbal García, a été l'édition des Illustrius Poetarum Flores. Cette présence paraissait devoir à une erreur du compilateur, puisque, comme on peut le voir, je ne sais pas si on peut le voir, à la fin du lemme Crudelitas, Cristóbal García présente des extraits numérotés corrélativement comme 8 et 9 qui correspondent au passage d'Ovid et de Lucrèce. La numération corrélative de ces extraits après le passage de Sinec de Manipulus, le numéro 7 à la gauche, que au début fait penser qu'au début, le compilateur les a inclus comme une partie de Crudelitas et qu'après, il s'est rendu compte de son erreur et l'a corrigé en ajoutant Credulitas comme titulus banquit dans la dernière ligne de l'extrait de Sénèque. À cette inclusion d'un nouveau lemme avec des textes de poètes exclusivement, on doit ajouter que tous les textes poétiques se trouvent dans l'ouvre d'Ottaviano Mirandola suivant le même ordre de présentation que les manuscrits de 146. La compilation réalisée par Cristóbal García a utilisé donc des importantes compilations en florilège médiéval et en anthologie de la Renaissance avec lesquelles il a créé une nouvelle œuvre, mais pour l'usage personnel du compilateur, bien que dans sa fonction de professeur à l'Université de Valladolid et de chanoine à la cathédrale de Ciudad Rodrigo, il a pu utiliser son cahier personnel pour l'enseignement ou pour la prédication. Arrivé déjà au final, j'espère avoir pu montrer au moins un peu que si bien l'importance des manuscrits du Manipulus Florum ne réside au texte qu'il transmet, néanmoins, ils peuvent nous apporter d'anciennes informations sur la diffusion du florilège de Thomas d'Arland. Les manuscrits des bibliothèques de l'Espagne offrent une présence plurielle et représentative de les diverses utilisations. Ainsi, du point de vue de l'histoire de la tradition manuscrite, il y a une des premières copies faites à Paris, car les manuscrits Q3, 11 et 1 de 4 représentants de la première édition universitaire. Et il y a aussi représentants de la seconde édition, la prix nombrée. Mais on trouve également un représentant de la famille Beta. D'autre côté, la collation externe des manuscrits nous a montré sa présence dans bibliothèques publiques et privées et dans milieux différents, monastiques, ecclésiastiques, universitaires et nobiliaires. En plus du Manipulus Florum, on n'a fait pas seulement une lecture publique et professionnelle, mais aussi laïque et privée. Finalement, il y a des samples des abréviations très précoces, comme celle du F2-18 de l'Escorial, et aussi de réutilisation et renouvellement dans les manuscrits de Valladolid, qui, au-delà des textes fixés dans les éditions de la Renaissance, fait un œuvre personnelle en utilisant des éditions imprimées. Merci beaucoup.